On va continuer. Et je crois que c'est bien de rentrer. Vous voyez, maintenant dans le livre de l'Évangile. Alors, ce que je propose, c'est de vous regarder, enfin, simplement, de regarder quelques petits points seulement. On pourrait regarder énormément de choses, hein, dans l'Évangile, vous imaginez, hein. Bon, si vous voulez qu'on traite un passage particulier, dites-le moi, n'est-ce pas, et puis on le fera. Mais j'avais pensé que ce serait intéressant de regarder l'Évangile de Saint-Luc dans le chapitre 7. Ne serait-ce que pour voir toute une trame. Les pères de certains pères de l'Église mettent que le chapitre 7 de l'Évangile de Saint-Luc, c'est comme la révélation cachée, et les apôtres, semble-t-il, l'ont commenté comme ça, pour que les docteurs de l'Église assez précoces, enfin ceux qui sont assez proches des apôtres, disent que ce chapitre 7 est comme la trame du mystère de la confession. Donc, on va essayer de le retrouver, cette trame. La pécheresse, vous vous rappelez, au pied de Jésus. Un pharisien ayant prié Jésus de manger chez lui, Jésus entra dans sa maison et se mit à table. Verset 37. Or, vois ici une femme qui menait dans la vie une vie déréglée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tenant en arrière lui à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à les arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête. Et elle les baisait, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche et que c'est une pécheresse. » Alors, prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Alors, le pharisien répond, « Maître, parlez. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer leur dette, il en fit grâce à tous les deux. Lequel donc l'aimera davantage? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a fait grâce de la plus forte somme. Jésus lui dit, tu as bien discerné. Tu as bien jugé, Crinaïne. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Il n'a pas touché Christ. Il n'a pas touché. Il n'a pas voulu même les toucher. Ni les pieds. Il n'a pas touché ni les mains ni les pieds. Hein. Pas touché le corps du Christ. Hein. Touché réel. Hein. Touché présence réelle. Je suis entré dans la maison. Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi, je te le déclare, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ben oui, c'est évident. Quand on se sent juste par soi-même, on n'a plus du tout envie d'aller au mystère de la confession. Quand on se sent juste. Le pharisien, il se sent juste par lui-même. Il adore. Il adore dans des rites qui sont établis par Dieu. Alors. Ah non, il n'adore pas en esprit en vérité, puisqu'il n'y a pas d'amour.
Il adore de manière religieuse, mais pas de manière.
Il adore de manière naturelle. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, c'est pourquoi je te le déclare, tes nombreux péchés lui sont pardonnés. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il y a un silence là. Un grand silence. Je pense. Et le silence est marqué, hein, puisqu'il y a marqué puis. Ça veut dire que c'est après. Puis, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés. Il disait déjà que ses péchés étaient déjà pardonnés, puisqu'elle avait montré. Mais l'amour et la contrition qu'elle avait exprimé déjà depuis une demi-heure faisaient que son péché, ça y est, lui sont pardonnés. Mais l'absolution est donnée après. Tes péchés sont pardonnés, ça y est, c'est officiel. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui c'est celui-ci qui remet même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors vous voyez, il faudrait reprendre tout ça, mais reprenez, vous voyez, parce que ça c'est, quand on est dans un pharisien, chez les pharisiens Siméon, il avait invité toute la ville, il avait invité tous les gens, toutes les autorités du quartier, et il y avait beaucoup de monde qui était là. C'est parti du Sanhédrin, du reste, c'est pharisien. Et il y avait énormément de monde. Et elle était connue, cette femme. Elle était très connue. On savait très bien qu'elle avait une vie un peu bizarre. Ça. Pas besoin de détails. Et donc, évidemment, elle avait une vie... Elle était meurtrie. Parce que, quand même, elle avait rencontré déjà Jésus plusieurs fois. Vous savez très bien de qui il s'agit, cette femme. Ça. Et donc, elle avait déjà rencontré Jésus plusieurs fois. Et elle avait rencontré Dieu. Jésus avait prié pour elle. Et donc, elle aimait Jésus. Elle aimait Dieu. Et elle préparait cet albatrone, vous voyez, avec du nard dedans. C'est étonnant ce qu'elle a fait avec ce parfum. Un prix étonnant, parce que si elle a versé tout ce qu'il y avait dans l'albatrone, c'est un an de salaire. Hein. Un an de salaire. Et le nard, c'est le parfum de la femme. La femme, c'est celle qui reçoit tout l'amour. C'est la médiatrice de l'amour. C'est sûr, ça. Mais en tout cas, elle est là, avec ce vase. Elle rentre par la porte. Faut voir ce que c'est. Elle rentre par la porte. Il y a tous ceux qui sont là. C'est souvent dans les colonnades qu'à Jérusalem, il y a les salles à manger avec des grandes pièces à colonnades, vous savez. Alors, faut voir que les pharisiens, puis, ils sont un petit peu allongés à la romaine, vous savez. Alors, elle doit rentrer par la porte. Parce qu'une salle à manger juive est toujours fermée. N'est-ce pas? Et on doit rentrer par la porte, et puis elle doit affronter pour aller derrière Jésus, qui est forcément à la place d'honneur, à côté du pharisien Simon. Elle doit affronter tous ces gens-là. Si qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir un silence. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Oh, c'est la prostituée du coin qui débarque. Ah ben ça c'est pas de peau. Ah ben qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis, tous les regards qui se fixent sur elle. Elle est obligée, elle va jusque derrière Jésus. C'est beau ce petit. Elle doit affronter tous les regards. C'est beau ça, vous voyez. Il y a d'abord la contrition. Puis après il y a la décision de faire que cette contrition s'exprime. Au bénéfice de toute l'humanité, au bénéfice de Dieu dans tout son corps mystique. Et du coup, on prend la décision d'aller dans le mystère de la confession et on dit ce qu'on est. On est pécheur. Elle l'exprime d'une manière très particulière en se montrant telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Mais elle le montre. Elle se montre. C'est pour ça, quelquefois, il y a des gens, quand si vous allez vous confesser, que le prêtre sait très bien ce que vous avez fait, vous n'avez pas besoin de lui dire. Vous savez, mon Père, ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, donnez-moi le pardon de Jésus, et que Jésus transforme le monde entier à travers ça. Et puis elle se met derrière Jésus, et puis elle touche son corps, elle se met en présence du prêtre, elle se met en présence du prêtre, du Père, du prêtre, du Saint-Esprit, du prêtre, de son peuple.
du prêtre de l'humanité, du prêtre de la création. Elle le touche. C'est pour exprimer tout ça qu'elle va loindre, d'une part, voyez, les baisers. Alors, voyez, il y a beaucoup de choses. Un bâtard, se tenant derrière lui, à ses pieds tout en pleurs, elle se met à arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête. Elle les embrassait et les oignait de parfum. Voyez, ça c'est beaucoup plus beau, voyez. Et ensuite, à cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. C'est une pécheresse. Ah mais voilà un homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui reçoit Jésus. Il est prêtre quand même de l'ancienne alliance. Et c'est marrant parce que vous voyez, quand vous allez à la confession, c'est Jésus que vous touchez à travers le sacrement du sacerdoce. C'est la présence réelle de Jésus. C'est sûr, mais il y a aussi l'homme, le prêtre, c'est pas Jésus. Ah, si c'était Jésus à chaque fois, c'est merveilleux, vous rentreriez comme ça dans la pièce où un prêtre confesse, et puis vous verriez, c'est Jésus. Dès qu'il y a l'étole, c'est Jésus. Vous verriez, c'est Jésus, ça y est, resplendissant. Ah, tout le monde irait se confesser. Mais comme Jésus ressuscité est caché, vous voyez, le jaune d'œuf est caché dans le blanc d'œuf, c'est un Patrick. Alors, vous savez, le pharisien fait naricus et il dit, oh, c'est la femme confessée, moi je confessais à Jésus, d'accord, mais au père, à l'aspect là. Alors les pharisiens plissent la narine. Oh non. Et le pharisien, voyez, le pharisien, dans le prêtre, il y a les deux. Dans le prêtre, il y a les deux. Il y a Jésus et il y a le pharisien. Et on doit affronter, et elle doit affronter. Jésus est très heureuse de ça, mais elle doit affronter le regard du pharisien, qui peut la juger. Et qui le juge d'ailleurs, peut-être. Elle doit affronter ça. C'est extraordinaire ça. C'est beau ça. C'est vrai. Et alors, c'est pour ça, vous voyez, que je vous ai lu que dans la liturgie du pardon et du Kippour, en Sukkot, eh bien, les Juifs exigeaient, et Dieu exigeait d'abord, que pour le sacrifice soit donné pour le prêtre, pardon, puis pour tous les prêtres. Avant que ce soit donné à quelqu'un. Alors, c'est ce que dit Jésus. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer leurs dettes, il leur fit grâce à tous les deux. Alors, c'est qui en l'aime le plus ? Tu devrais l'aimer davantage qu'elle. Parce que tu as reçu plus de pardon qu'elle. Puisque tu es source de pardon. C'est vrai ? Se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. Alors ça, c'est formidable, ça. Vous voyez, vous retrouvez les trois, hein. Le cœur, les yeux, et l'homme debout sur ses pieds. Vous avez à nouveau les quatre plantes, vous voyez. Elle m'a embrassé. Hosanna, Seigneur, sauve-moi. Hosanna. De grâce, sauve-moi. Sauve-moi, Hosanna, de grâce. Sauve-moi. Elle m'a embrassé. Avec ses yeux, elle a pleuré sur moi. Elle avait la contrition. Et puis enfin, c'est mes pieds. C'est le droit. C'est l'homme qui est debout, les pieds. Hein. C'est la palme. Mais là, cette fois-ci, ça se réalise. Vous voyez, dans la réalisation de le Nouveau Testament, ben, tous ces symbolismes, le péché est enrobé d'amour. Et c'est pour ça que c'est dans l'amour qu'elle embrasse sa confession. C'est de l'amour. On commence à rentrer, on est joyeux parce qu'on sait quand on va vers Jésus dans le mystère de la confession, on est déjà pardonné. Et donc, on est rempli d'un amour quasi infini. Alors, on embrasse. Vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église a mis un confessionnal avec une barrière, parce que le prêtre dit, il ne faut quand même pas trop. Alors maintenant que la charité s'est refroidie dans le monde, on met plus de barrières. Parce que les... ils sont plus... On met plus de barrières, alors, du coup. Mais sinon, avant, oui, il fallait. Sinon, se précipiter sur les prêtres. Oh, c'est... Alors, au bout d'un certain temps, ben, ils étaient épuisés. Le pauvre curé d'Ars était déjà épuisé, même avec une barrière. C'est sûr, ça. C'est vrai. Alors, vous voyez, alors... Vous avez donc ces quatre aspects, vous voyez, qui sont là. C'est une réalisation, mais tout est pris cette fois-ci de l'intérieur et de l'extérieur, enveloppé par l'amour, par la contrition. Alors, à ce moment, par la joie, par l'espérance. Par la contrition, le péché. Par la joie, l'adoration. C'est l'union qui fait la joie. Par l'espérance, le cœur. Par la présence aussi, la foi. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et c'est pour ça que c'est rentré dans le mystère de la confession. Moi, je connais beaucoup de prêtres comme ça qui, quand on découvre le mystère de la confession, elles se confessent tous les jours. Du coup. Dans les monastères, les prêtres, le père Emmanuel que vous avez connu, lui, dès qu'il a été ordonné prêtre, il s'est arrangé avec un autre prêtre et tous les jours on se confesse. Hein. Il se confessait tous les jours. Merveilleux, c'est vrai. C'est étonnant. La confession, c'est... Quelqu'un qui se confesse tous les jours, ça m'étonnerait, quelqu'un qui se confesserait tous les jours, qui puisse avoir quelconque tentation. Hein. Parce que c'est un sacrement de guérison aussi. Hein. Ça fait des saints, hein, confession. C'est pourquoi je te le déclare, ces nombreux péchés sont pardonnés. Oui, parce que, vous voyez... parce que à celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Oui, parce que on y va tous les jours. Tous les jours, il y va, le Père Emmanuel. Allez hop, tous les jours, il se confessait. Moi, je l'ai confessé qu'une fois. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit. Parce que c'est un secret de confession, même après sa mort. Mais c'était beau, hein. C'est magnifique. C'était bouleversé, moi. C'est bouleversant, ça, une confession d'un vieux prêtre comme ça. Et je reconnais que quand j'y pense, j'ai du mal à retenir mon émotion, même aujourd'hui, 5 ans après. Parce que celui qui va au mystère de la confession, mais de manière réelle, avec une présence concrète, physique, incarnée, eh bien, ça veut dire qu'il a décidé d'aller à un amour surabondant, pas à un amour peu, mais à un amour beaucoup. Parce que c'est le petit signe, ça. Alors on peut se donner toutes les raisons possibles du monde, hein, mais vous savez, en réalité, c'est que l'amour fait peur. Il fait très très peur, l'amour. Et puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et paf, ça y est, c'est l'absolution. Ça, c'est beau ça, parce que vous avez l'exhortation, vous avez l'absolution. Et ceux qui étaient à table se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui remet même les péchés? Vous voyez, tout de suite après la confession, on comprend que Jésus, c'est le Verbe de Dieu, et qu'il est Dieu, né de Dieu. Et on comprend qu'il est face à Dieu, et qu'il est face au Père, et qu'il est dans un face-à-face. Et on comprend ce qu'il est, qu'il est sans arrêt lumière, face à la lumière, et qu'il est en pleine lumière, et que le sacrement de confession, c'est le sacrement de la lumière. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Après la confession, il y a une mutation, une transmutation. La foi, vous savez, transforme. forme le croyant en Dieu, en Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est le Christ ressuscité qui vit en lui. Il y a donc une mutation. Ce n'est pas une transsubstantiation qui s'opère dans le sacrement de la confession. C'est une transmutation. C'est une transformation, si vous voulez. On appelle ça une conversio, métanoïa, une mutation qui se fait. Alors Jésus cheminait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits de mal et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc on comprend qu'il s'agit peut-être de Marie-Madeleine, en effet, n'est-ce pas, qui avait été très loin. Et dans la prise par les puissances du mal. Et effectivement, après la confession, il y a cette mission, cet envoi dans le monde entier à travers les 12, donc le mystère de l'Église. Donc vous voyez, nous avons une trame très belle dans l'évangile de Saint-Luc, mais ce n'est qu'une trame, et c'est les pères de l'Église à la suite des apôtres qui la donnent. Hein. Donc je vous la restitue, mais de toute façon c'est très intéressant de voir ça. Je voudrais quand même signaler aussi un autre passage dans les évangiles, sauf si vous en avez un, que vous pensez être intéressant à regarder. C'est le chapitre 7 de l'évangile de Saint Jean. Vous voyez, c'est toujours 7, hein, encore une fois. Pour le pardon, c'est 7. Hein. Soit parce que je dois pardonner 7 fois, non. Je te demande, tu pardonneras 70 fois, 7 fois. Toujours 7. Chapitre 7 de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 7 de l'évangile de Saint-Jean. Eh bien, c'est pendant la fête de Sukkot que nous avons décrite, qui est la fête de la libération du péché, du pardon, de la miséricorde de Dieu, et donc de la joie, de l'allégresse et de l'espérance. C'est tout ça, la fête de Sukkot, c'est le Kippour, c'est la fête du pardon. Eh bien, c'est là qu'il va y avoir cette chose extraordinaire de la femme. Le dernier jour de la fête, donc au Hosanna Rabba, 10 jours après le Kippour, qui en est le jour le plus solennel. Jésus debout dit à haute voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sein, comme dit l'Écriture, couleront des fleuves d'eau vive. Il disait cela de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il pouvait instituer le sacrement de l'Eucharistie. Avant sa mort et sa résurrection, il ne pouvait pas instituer le sacrement de la confession avant sa résurrection. Impossible. Parce que c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement du Verbe rempli d'amour dans son incarnation. Mais le sacrement de la confession, c'est le sacrement de l'envoi de l'Esprit Saint, du don parfait. Parmi la foule, vous voyez, ici, je m'excuse pour ceux qui viennent d'arriver, mais comme on a vu tout ce que représente la fête de Sukkot, la fête de Kippour, c'est le dernier jour, Jésus donne la signification à tout le sacrement du pardon dans l'Ancien Testament, et qui est exprimé dans la fête. Alors, tout est donné, et il dit, ben voilà, c'est la présence, il faut croire en moi, et vous devenez source de l'Esprit Saint. Alors, les gens s'en retournèrent chacun dans sa maison. Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers, Et dès le point du jour, il retourna dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Donc le lendemain, après avoir passé sur la montagne des Oliviers, toute la nuit en prière, eh bien, il retourne dans le temple. Et donc il rajoute enfin le point final, exactement comme dans la création, il y a 6 jours de la création, et puis il y a le 7e jour, le point final, qui est donné par le Messie. Vous savez que le 7e jour, on ne doit rien faire, parce qu'il n'y a que le Messie qui peut faire quelque chose. Vous savez ça. C'est le Messie qui donne la signification aux 6 premiers jours, la clé de voûte, et puis qui reprend les 6 premiers jours dans une récapitulation éternelle. Il met le temps et la création dans l'éternité. C'est pour ça qu'on doit respecter le sabbat dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Jésus fait toujours ses miracles le jour du sabbat, pour montrer que le Messie, c'est lui. Puisque les Juifs savent que c'est le jour réservé au travail du Messie. Et là, une fois que la fête de Hoshana Rabba a terminée, le lendemain, après avoir donné la signification, il donne l'application. C'est très beau ça aussi, voyez. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. » C'est honteux. 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 Ils viennent de passer les 15 jours de liturgie, du pardon, avec tout ce que ça implique comme exigence intérieure, de liturgie de joie, d'allégresse, parce que Dieu libère du péché, pardonne. Ils ont mis les... Ils ont vécu vraiment tout ça de l'extérieur, la pure tradition familiale, c'est tout, rien d'autre. Et la preuve, ils amènent une femme pour qu'elle soit lapidée. Ça, faut se faire expliquer une fois comment ça se passe ces 10 jours de... C'est phénoménal, hein, la fête du pardon, hein, à Jérusalem. À cette époque-là, alors là, c'était affolant. C'est une fête incroyable. Une joie, une allégresse folle. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle personne. Et toi, qu'en dis-tu? C'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Mais quand vous avez été pardonné, vous êtes sans péché. Ils sortent tous de la fête de Sukkot. Alors combien il y en a qui ont vécu de la fête de Sukkot dans le paquet? Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant entendu cette parole et se sentant piégés par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, les plus âgés d'abord. Puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas un seul. Jésus arrive à un moment où les hommes ne peuvent même plus recevoir le pardon à l'intérieur d'une liturgie religieuse instituée par Dieu. Il n'y a pas un seul de ceux qui ont la connaissance de la Torah, la sagesse de la Torah. Il n'y a pas un seul de ceux qui sont la myrte, vous voyez, qui a reçu le pardon. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui vous accusaient? Est-ce que personne ne vous a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. Personne. » Ah ben, ce qui compte, c'est que dans la vie, tu ne juges personne, tu ne condamnes personne, que tu sois condamné par personne, c'est la tolérance, quoi. Voilà ce qui compte. Mais si tu t'en restes là, si pour toi c'est ça le pardon, c'est la spiritualité des pharisiens, ça. Finalement, ils ne l'ont pas condamné, bien coincé, hein. Parce que si tu es intolérant, tu te fais rembarrer. Hein. L'intolérance, n'est-ce pas ? La tolérance, c'est merveilleux, la tolérance. Mais la tolérance, ça ne suffit pas du tout. C'est pas le pardon, la tolérance. C'est une manière très subtile de ne pas pardonner et de refuser le pardon. Très, très subtile. On peut s'installer là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. J'ai pas dit ça. J'ai dit, ça ne va pas. C'est une conséquence du péché, la tolérance. C'est pas un péché, c'est une conséquence du péché. Tandis que le pardon, c'est une conséquence de la miséricorde. La confession aussi. Conséquence de la confession de Jésus crucifié. Si Jésus n'avait pas été crucifié, eh ben on ne pourrait pas confesser ce qu'on est. Ce serait impossible. C'est ce que nous avons vu du reste hier dans l'Écriture, c'est parfaitement explicite. Donc elle répondit, personne. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Bon, je pense qu'il fallait lire quand même ce petit passage pour voir que quand même il était nécessaire que Jésus pardonne les péchés. Il a pardonné les péchés dans le chapitre 7 de l'évangile de Saint-Luc. Et comme vous le voyez ici, il ne condamne pas. Mais il ne donne pas l'absolution. Donc nous avons un cas où il donne l'absolution, un cas où il ne donne pas l'absolution. La différence entre les deux, vous l'avez reconnu, c'est que la femme, ici, ne confesse pas son péché. Mais Jésus ne la condamne pas. Il prend sur lui toute sa faute sur la croix. Donc il ne la condamne pas. Elle est sauvée. Mais elle n'est pas. Elle n'a pas l'absolution. Donc elle n'a pas le don parfait qu'il aurait voulu lui donner. Il ne peut pas vivre en elle comme ressuscité. Il ne peut pas faire d'elle une source de l'Esprit Saint pour le monde. Il ne peut pas. Parce qu'elle n'a pas confessé ce qu'elle était. Mais il lui dit quand même, ne pêche plus. Hein. Au moins ça. Je voudrais regarder maintenant dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, vous signaler que l'institution de l'Eucharistie, et avant d'être arrêté et de dire « mon Dieu, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne », avant d'avoir l'agonie de Gethsémani, il y a cette prière du Fils bien-aimé, la prière sacerdotale, où il se montre déjà à l'extrême de l'agonie tel qu'il est. C'est la dernière prière où il peut encore voir qu'il est le Verbe de Dieu et qu'il est Dieu, né de Dieu. Après, l'assimilation au péché est si forte qu'il ne peut plus le voir. Donc c'est le dernier moment. Il le sait, mais il ne le voit plus. Sinon, la mort n'aurait pas été possible. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très très fort dans la prière du Fils bien-aimé, qui est le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Et ça, je crois que c'est important de le signaler. Je voudrais simplement vous signaler une chose. On va le lire, voyez, un tout petit peu. « Père, l'heure est venue. » C'est la confession du Fils, au fond. C'est la confession du Fils, mais voyez, dans un climat que vous y imaginez, de détresse, de cœur broyé, déchiré, « afin que ton Fils te glorifie, glorifie ton Fils, puisque tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. » Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. La gloire que le Verbe de Dieu avait avant la fondation du monde, c'est qu'avec le Père, il était source de l'Esprit Saint. Et il demande à celui qui est péché, c'est-à-dire son humanité, qui est entièrement assimilé au péché, et il demande à ce que ce soit ce péché-là qui soit source de l'Esprit Saint. Glorifie-moi. C'est l'homme, hein, c'est le prêtre qui parle, c'est l'humanité du Christ qui parle ici. Il demande que le péché soit transformé en source du Saint-Esprit, comme lui, le Verbe de Dieu dans le sein du Père, est source du Saint-Esprit. C'est incroyable ce qu'il demande là. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils savent à présent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Donc le Christ prie d'abord pour lui. Glorifie-moi. Puis dans un deuxième temps, il prie pour les apôtres, les prêtres, ceux à qui donne le pouvoir sacerdotal. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ah, tiens, une prière spéciale pour Jésus. Une prière spéciale pour l'Église. Une prière spéciale pour toute l'humanité. Car tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Pardon. Et c'est en eux que je suis glorifié. Ça veut dire ici, Jésus dit bien explicitement que la glorification de la résurrection ne peut pas se faire en dehors de la communauté apostolique. Et il le dit explicitement ici, vous voyez, c'est en eux que je suis glorifié. C'est dans le corpus apostolique, l'Église, hein, corps mystique de Jésus, que cette gloire, que ce fait que ce péché que j'ai pris soit source du Saint-Esprit, se réalise. C'est pour ça qu'il prie pour le sacerdoce nouveau qu'il institue. Je ne suis plus dans le monde, pour eux, ils sont dans le monde, mais moi je viens à toi. Père Saint, garde-les dans ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils ne fassent qu'un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les conservais dans ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et pas un d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Maintenant, je vais à toi, et je fais cette prière pendant que je suis venu dans le monde, afin qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. C'est pas la paix, hein, c'est la joie, hein. Notez bien. Hein. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Oh, curieux que cette bénédiction fait qu'il y ait une espèce de haine de l'Église dans le monde. L'Église a quelque chose de repoussant pour ceux qui veulent épouser l'esprit du monde. L'Église a quelque chose de rebutant. Ça, c'est, vous voyez, prière sacerdotale, la dernière prière. Alors Jésus toujours exaucé. Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les dans la vérité. Consacrez-les, une autre traduction, n'est-ce pas? D'ailleurs, sanctifier et consacrer, c'est le même mot en hébreu, hein, c'est pour ça que... Consacrez-les dans la vérité, consacre-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés en vérité. Le Christ s'est consacré pour eux. Le Christ s'est consacré pour cette communauté apostolique, pour cette communauté de prêtres. Cette communauté sacerdotale qu'il institue, c'est pour eux. Il s'est consacré. Et quand on est consacré, on est lié. Vous voyez, quand le pain est consacré, Jésus est lié au pain. Quand nous sommes consacrés par le baptême, nous sommes liés à Jésus. Nous sommes liés à la mort et à la résurrection du Christ. Liés, ça y est. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est pour ça que si on a été baptisé et qu'on veut séparer de ce que... Alors ça ne va pas. C'est un adultère. C'est pas de l'amour, ça. Et puis enfin, troisième partie de la prière, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, pour que tous ils soient un pour tous les autres, pour le peuple, pour le monde, pour toute l'humanité. Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, ils soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ici, Jésus prie, cette fois-ci, pour le monde. Et pour que le monde reconnaisse quelque part qu'il y a de l'amour dans le corps mystique de Jésus, même s'ils sont rebutés, ils le reconnaissent quand même. Et que par là, ils soient sauvés. Ils ne seront pas source de sainteté, ils ne seront pas source d'amour, ils ne seront pas source de rédemption, ils ne seront pas source de gloire pour Dieu, mais au moins, ils sont sauvés. Et ils glorifieront Dieu éternellement, avec toute la création. C'est la troisième partie de la prière sacerdotale. Or, je ne sais pas si je vous avais fait remarquer que dans la fête de Soukhot, dans la fête des tabernacles, il y avait au moment du Hoshana Rabba, c'est-à-dire le dixième jour de la fête des temples, de la fête des tentes, pardon, il y avait cette fameuse prière. Trois fois le prêtre, vous voyez, invoquait le nom de Dieu, c'était la seule fois de l'année, dans le temple de Jérusalem, et trois fois de suite, il invoquait le nom de Dieu pour son péché de prêtre. En tant que tel, il savait très bien qu'il représentait le Messie. Poser les mains. Et puis ensuite, une fois pour toute la communauté des prêtres, puis une troisième fois pour les péchés du peuple. Et il recommençait trois fois cette prière, et pour consolider ces neuf fois, il mettait la main sur le bélier, et le bouc émissaire était tué, on le faisait sortir de Jérusalem pour qu'il soit le bouc émissaire, pour qu'il soit quoi, qui prennent sur lui tous les châtiments de tous ces péchés-là. Et la structure de la prière sacerdotale qui est ici, voyez, là il faudrait plein de détails techniques, hein. Je ne vais pas vous le faire parce qu'on m'a demandé de ne pas être trop technique cette fois-ci, de manière un petit peu plus simple, mais sinon ça aurait été très intéressant, de regarder toutes les correspondances verset après verset dans cette prière sacerdotale par rapport à la prière sacerdotale de la fête du Hoshana Rabba, du dixième jour de la fête de Soukhot. Et donc, de sorte que Jésus, de manière parfaitement évidente, à travers ça, il dit, voilà la grande signification de la fête de Soukhot. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Saint-Jean, et c'est pour ça que je voulais lui. Il y a la prière de pardon pour lui-même. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il y a la fête, il y a le pardon pour les apôtres qui sont là, et pour tous ceux qui auront le pouvoir apostolique, et la fête et le pardon. Or, tous les baptisés sont apôtres. Dès que vous êtes baptisés, vous êtes prêtres, prophètes et rois. Mais il y en a d'autres qui le sont visiblement. Tous le sont surnaturellement, les baptisés. Et puis après, et donc vous voyez, c'est pour ça que je vous l'ai lu, et il faudrait le commenter en fait longuement. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on aille un petit peu. Malheureusement, il aurait fallu qu'on ait 7 ou 8 jours, et alors c'est pour ça que je voudrais quand même reprendre cette prière sacerdotale. ici, je vais le faire ici sur le petit tableau qui est là, en reprenant non pas de manière trinitaire, comme je viens de le faire à l'instant avec vous, mais en regardant les sept moments. Les sept moments de la prière sacerdotale. Alors, versets 5 à 10. On ne va peut-être pas le commenter complètement, si vous voulez, mais au moins je vous le signale pour que vous puissiez vous-même méditer, demander au Saint-Esprit ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Parce qu'on va passer de 3 à 7 cette fois-ci. Bon, vous savez que la grande structure, c'est 3, et puis maintenant, il va y avoir 7. Il y a 7 grandes parties et 7 grandes demandes. J'ai manifesté ton nom aux hommes. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Verset, Père juste, verset 25 et suivant. Je le mets dans le désordre, j'espère qu'on arrivera à comprendre pourquoi. Père juste, je leur ai donné, etc. Donc, pour que ton amour soit en eux. Ensuite, versets 1 à 5. Père, glorifie ton Fils. Versets 11 à 13. Père Saint, garde-les dans ton nom. Verset 24. Pour qu'il soit Père, qu'il soit avec moi. Tu m'as aimé avant la création du monde. Versets 20 à 23. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et enfin, versets 14 à 19, ils ne sont pas du monde, garde-les en ton nom. Garde ça en réserve. Ah bon, je respire. Je mets tout de suite, puisqu'on est dans l'Évangile, en parallèle entre cette confession devant le Père et la confession que l'épouse a entendue de l'époux. Elle a entendu, et c'est ce parallèle qui est intéressant à faire, elle a entendu les sept paroles du Christ sur la croix. Parce que Jésus, quand il a confessé, il a manifesté cette confession par sept paroles, vous le savez bien, sur la croix. Donc il faut faire le rapprochement entre la prière sacerdotale de celui qui demande pardon et de celui qui reçoit, qui est la victime. Il est le prêtre, chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, il est la victime, c'est les sept paroles de Jésus crucifié. Donc, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? entre tes mains. Je remets mon esprit. Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis, au larron, hein, faut rappeler. Voici ta mère. Voilà ton fils. J'ai soif. Tout est accompli. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc nous allons garder ça en réserve parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus que j'aurais honte de commencer maintenant. Et vous sentez qu'évidemment, on sent tout de suite quand même que j'ai manifesté ton nom aux hommes. C'est le premier aspect du mystère de la confession, c'est la manifestation de la personne telle qu'elle est. Il a manifesté aux hommes le Père tel qu'il était, en se manifestant aux hommes tel qu'il était, et en se manifestant au Père tel qu'était l'homme. Et en se manifestant au Père tel qu'était l'homme, manifester face à Dieu ce que l'homme est, substantiellement, fait qu'il est entièrement séparé du Père. Sinon, il ne manifesterait pas au Père ce qu'est l'homme dans le péché. Il s'est fait péché pour nous. Et c'est pour ça, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et en vérité, alors ça c'est pour le monde. Il veut sauver le monde. Et pour sauver le monde, il se consacre, donc il s'unit à ceux qui sont liés substantiellement à lui dans le corps mystique, pour que dans le monde, il y ait quand même des gens qui soient sauvés. Le monde est sauvé uniquement à cause du corps mystique de Jésus. Il continue de survivre uniquement à cause de ça. S'il y a encore un peu d'amour dans le monde, c'est uniquement à cause du corps mystique de Jésus. Parce que le corps mystique de Jésus est le seul lieu où on se confesse encore, où on confesse encore que l'humanité telle qu'elle est devant Dieu. C'est le seul lieu, au fond, où l'humanité accepte de dire au Père, c'est vrai. Nous sommes, malgré tous les efforts, qu'on le veuille ou non, dans des religions comme le mystique, comme le Nouvel Âge, ils sont très contents de leur truc. Puis c'est tout, et donc c'est très bien, c'est parfait. L'homme n'arrive pas à reconnaître qu'il est séparé de Dieu. Il n'y a que dans l'Église de Jésus, au fond, il n'y a que dans l'Église de l'Esprit-Saint, dans l'Église de la Vierge, qu'on confesse que l'homme est séparé de Dieu. Nous confessons, nous, tout le temps, que nous sommes loin de Dieu. C'est vrai, c'est le seul lieu où on dit la vérité à Dieu, où on accepte cette vérité, qu'on est séparé de Dieu par les conséquences du péché originel, par toutes sortes de fautes qui nous sont personnelles. Et du côté, donc, du mystère de la croix, c'est le pardon par rapport à ça. Par rapport au monde, voyez, par rapport au monde, ils ne le savent pas, ils ne le confessent pas. Mais puisqu'il y a le sacerdoce, puisqu'il y a le mystère de la confession dans le corps mystique de Jésus, alors il peut dire « Père, pardonne-leur à tous les autres ». Donc le pardon est surabondant sur ceux qui ne le savent pas, qui ne veulent pas rentrer dans le mystère de la confession, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont séparés de Dieu, qui sont contents de leur truc. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire comme question ? Oui, il y a le pardon, bien sûr. Il y a la confession dans le sacrement de... Il y a le pardon dans l'Église orthodoxe, oui. Le corps mystique de l'Église, c'est tous ceux qui vivent des sacrements et tous ceux qui sont dans la succession apostolique. Vous voyez bien la prière sacerdotale, c'est qu'il y a Église et communauté chrétienne qu'à partir du moment où il y a les apôtres, et donc le pouvoir apostolique et la succession apostolique.
On peut dire qu'actuellement, dans la grande partie de l'Église protestante,
Ils sont chrétiens par la foi, mais ils ne sont pas chrétiens par le, ils sont pas chrétiens par le point de vue du corps mystique.
Chez les protestants, on les sent quand même très contents. Ils n'ont pas la même.
Oui, non, c'est vrai.
Ils n'ont pas cette. Ils n'ont pas la confession comme nous, là.
Ah non, non, ils se confessent uniquement là. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Et ils reconnaissent, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est loin? Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, contrairement à ceux qui sont dans le monde, qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont quand même dans l'Église. Mais ils ne pénètrent pas dans tout le, dans le cœur du mystère de la confession. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on va voir. Puisqu'ils ne vont pas jusqu'au sacrement. C'est normal, puisqu'ils ne sont pas dans la succession apostolique. Mais ils sont quand même dans l'Église. Ils sont quand même, c'est une demeure quand même de la chrétienté. C'est, et par la foi, c'est par la foi qu'on fait partie de qu'on est lié au Christ, qu'on vit de sa grâce. C'est la foi qui justifie. Et ils peuvent très bien, en confessant leur péché, un, recevoir le pardon, deux, recevoir la grâce, trois, pouvoir, ils pourraient faire un acte de charité parfait. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'en sont pas sûrs. Parce qu'avant de savoir si on est absolument certain de faire un acte de contrition parfait, à travers un acte de charité parfait par rapport à Jésus, par rapport à tous les hommes, dans l'acte de pardon qu'on fait seul en face de Dieu, seul en face du Christ, oui, si on fait ça, et si on le fait de manière parfaite, sous l'opération de l'Esprit-Saint, on reçoit la même chose que dans le sacrement et le mystère de la confession. On reçoit le mystère de la confession tout entier. Mais va savoir quand l'Esprit-Saint, en effet, a pris tout ton cœur pour faire un acte de contrition et de charité parfait par rapport à tes péchés et par rapport aux péchés du monde entier. Par contre, quand tu passes par le corps du Christ, par le pouvoir de la consécration que Jésus a fait dans sa résurrection, dans sa croix et sa résurrection, dans le corps mystique de Jésus, à travers le sacrement, là, tu es sûr de la présence de Jésus ressuscité, et tu en es sûr, mais elle est cachée. Et donc, c'est efficace. C'est efficace. O ex opere operato, donc par le fait même, parce que c'est Jésus qui le fait. Donc ils peuvent très bien faire partie du corps mystique de Jésus, les protestants, puisqu'ils sont, j'allais dire, dans la première réalisation du mystère de la confession, et ils peuvent rentrer du coup dans tous les autres. Mais c'est évidemment incertain, un petit peu comme dans l'Ancien Testament. À travers la fête de Soukhot, tous les juifs pouvaient rentrer dans le pardon du Messie et vivre de la grâce du Messie et vivre de l'Esprit Saint d'une certaine manière. Mais ce n'était pas du tout évident parce que c'était trop compliqué peut-être aussi. Hein.
On a l'impression...
Parce qu'au milieu de ces, tout ce sang des taureaux, des béliers, des boucs, des tourterelles, des agneaux, il y avait... Ça coulait partout. Alors, au milieu de tout ça, rentrer dans le feu de l'Esprit Saint, ça devait pas. Il y avait les odeurs, certainement aussi. Mais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'encens, hein, parce que pour enlever les odeurs du sang, le pourri de tout ça. Ah, puis alors, c'est vrai. C'est, oui.
On a l'impression que beaucoup de protestants se confessent au Père, à Dieu le Père, au nom du Christ. Mais on n'a pas l'impression qu'ils se confessent à Jésus pour que Jésus se.
Si. Seulement, ils le font par eux-mêmes en raison d'un sacrement. Hein. C'est pourquoi ils font partie du corps mystique, qui est le sacrement de baptême. Donc, ils peuvent très bien vivre du Christ en eux. Tout à fait. Tout à fait. Ben parce que c'est efficace en fonction de leur foi, de leur charité. Et leur foi et leur charité se conjoignent dans un seul acte uniquement s'il y a l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne se donne pas à tous les coups. L'Esprit Saint se donne où il veut et quand il veut. Mais il se donne ex opere operato de manière efficace et à chaque fois et à chaque instant ou quand tu le veux à travers les sacrements.
Et certains protestants l'admettent, ce que vous dites.
Ah ben,
il y a une différence entre la confession sacramentelle et la confession directe.
Ah ben, ils savent très bien sûr, qu'ils peuvent très bien demander pardon sans être pardonnés. Ils le savent très bien, ça.
Mais ils n'admettent pas que nous, ça marche à tous les coups.
Ah, ça dépend lesquels.
Les
non, officiellement, Les meliores, comme on dit, ils savent ça. Ils savent qu'ils sont coupés de la succession apostolique, donc que le pouvoir du pardon n'est plus chez eux. De même que le pouvoir de transsubstancier les espèces eucharistiques. Donc ils le savent. Ils le savent. Ça les embête de l'avouer, et peut-être pour la plupart d'entre eux, ça les embête de se l'avouer. Mais pour ceux qui sont, moi comme j'en ai rencontré un certain nombre, ils savent que c'est vrai. Mais ils préfèrent que ça ne se sache pas trop dans leur communauté, parce qu'ils pensent, peut-être à juste titre du reste, qu'il faut que ce soit la communauté tout entière qui petit à petit revienne dans la succession apostolique, et non pas un à un. C'est très difficile hein, ce problème. Hein. Non, mais ils peuvent recevoir les fruits de ce qui correspond au sacrement de baptême à travers le rite de la circoncision. Parce que le rite de la circoncision, c'est prophétiquement et de manière concrète et incarnée, la circoncision du cœur du Christ. Et donc ils peuvent recevoir, et c'est ainsi justement que Abraham, à travers la circoncision, a été source de bénédiction et qu'il a été justifié par Dieu et donc il a eu la grâce du Christ. Eh ben, les femmes, oui, c'est par la foi qu'on est justifié. Mais c'est-à-dire que la justification dans le peuple d'Israël passait par la médiation vraiment de la communauté. Vous voyez, la médiation. Alors, il n'y avait que la médiation de la communauté. Tandis que dans le Christ, il y a la médiation du Christ directement à partir du moment où on l'accepte individuellement dans les sacrements. Il va y avoir la médiation de la communauté, l'Église. Il va y avoir la médiation du Saint-Esprit. Il y aura trois grandes médiations, trois grandes voies, lesquelles sont inséparables. Et vous ne trouverez aucune religion où il n'y a que la médiation du Saint-Esprit, ou une autre, ça n'existe pas, une religion où il n'y a que la médiation de la communauté. Si, Israël, avant la venue du Christ. Et aucune religion où le Christ se donne personnellement, individuellement. Nous avons ça, mais nous vivons des trois en même temps. Alors, je voudrais quand même vous donner un petit peu le tableau. Si, j'ai les sept paroles du Christ en croix, et on va essayer de reprendre ça. Ah non, elle ne les a pas reprises parce que nous sommes sur la fin, c'est pour ça. Donc on va. Non, ce n'est pas chronologique. Ce n'est pas chronologique du tout. Mais c'est pour vous signaler les sept aspects et on va les commenter la prochaine fois. Pas ce soir, malheureusement. C'est ce soir qu'on a une nouvelle conférence. Bon, ce soir, on va répondre aux questions. Donc à travers les questions, on va regarder la grande structure, c'est très si concrète si on peut. D'abord en répondant à travers les questions, on va essayer de voir la grande structure qu'on a vue d'ailleurs dans l'écriture. On a vu beaucoup d'éléments. On a vu qu'il fallait la contrition, qu'il fallait l'aveu, qu'il fallait le ferme propos, la résolution de ne plus commencer, qu'il fallait la conversion, qu'il fallait que le pardon soit donné avant, il fallait la joie, qu'il fallait la rencontre, qu'il fallait l'absolution, qu'il fallait la pénitence, qu'il fallait, vous voyez, qu'il fallait énormément de choses. On l'a vu tout ça à travers Noé, à travers l'Exode, à travers la fête de Soukhot, etc. Et on va voir que, au fond, le sacrement et la liturgie que Jésus va instituer, en réalité, j'aurais dû quand même terminer au moins ça par l'institution, par Jésus, du sacrement de confession. Au moins ça, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, ça. Il leur dit une seconde fois, paix à vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il leur donne le pouvoir à ce moment-là. Mais il leur avait déjà prévenu, hein, puisque vous savez qu'il y a des passages qu'il faudrait que je retrouve. Je suis désolé, j'aurais dû faire ce petit travail avant.
La question que j'ai ici, c'est en référence, de se reporter à Matthieu,
oui.
Chapitre 16, verset 19 et suivant, et le même Matthieu 18, verset 18 et suivant.
Alors, très bien, c'était génial, heureusement que vous êtes là. Alors, chapitre 16, verset...
Il avait dit, Jésus avait répondu à Simon-Pierre, « Tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jean, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Je te donnerai, vous voyez, c'est au futur. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Chapitre 18, verset 18. Chapitre 16, verset 19. Oui. Chapitre 18. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Vous voyez, il institue quand même, pardon cette fois-ci, il passe du collectif à la confession dans un face-à-face. C'est normal, puisque le peuple du pardon de l'ancienne alliance, c'est les 70 nations représentées par les 70 membres du peuple d'Israël en Égypte. Alors donc c'est normal que ça se fasse collectivement dans une célébration de Kippour collective. Mais tandis que Jésus, c'est dans un face-à-face. C'est une relation de face-à-face. On confesse ce qu'on est, on confesse ce qu'on a en donnant tout ce qu'on a. Et on donne tout ce qu'on a en montrant ce qu'on est. On montre ce qu'on est pour que l'autre le prenne et en vive. Que ce soit donné. Et c'est ce que je vis. Et l'autre, je peux pas aimer quelqu'un si je donne pas tout ce que je suis. C'est pas possible. Et pour Jésus, c'est pareil. Alors c'est entre lui et toi, seul. Et si t'écoutes, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que toute cause se décide sur la parole de deux ou trois témoins. Et s'il ne les écoute pas, dis-le à l'église, la communauté. Et s'il n'écoute pas, vous voyez, il reste encore la possibilité de vivre le pardon sous le mode communautaire, du Kippour, de l'Ancien Testament. Mais s'il n'écoute pas non plus l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'il y a une autre référence?
Jean 1, 33.
Oh, c'est merveilleux, il y a plein de conférences.
Il y a Luc 24 aussi.
Ah.
Donc Jean 1, 33.
Alors, Luc 24, quel verset, Luc 24?
Luc 24, 47.
Alors, il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures et il leur dit, « Ainsi il est écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît, qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que le repentir et la rémission des péchés soient proclamés, prêchés en son nom à toutes les nations. » À commencer par Jérusalem, vous êtes les instruments de ces choses. Et moi, je vais envoyer sur vous le don promis par le Père, et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance d'en haut. Et effectivement, il donne cette puissance, vous voyez, ici. Donc je relis l'évangile de Saint Jean. Les disciples remplis de joie en voyant le Seigneur, il leur dit une seconde fois, « Paix avec vous ». Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, c'est très net, mais vous voyez, il y a une église à Rome où toutes les paroles où Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés font le tour comme ça de toutes les murs. Alors ça fait, je ne sais plus exactement comment ça fait, ça doit faire 800 mètres. Il y a... Non, parce que c'est vrai que donc l'arche, donc, c'était 300 coudées et pas 300 mètres. Alors il faut diviser par 7 le chiffre que je vous avais donné, parce que 1 mètre égale 7 coudées, oui. Mais c'est vrai. Donc dans l'arche de Noé, on n'aurait pas pu mettre 800 000 personnes, mais on aurait pu mettre 125 000. On reprend pour regarder cette fois-ci le mystère de la confession directement. Et on va regarder la confession elle-même. Et on va regarder à quel point la confession, comme pour l'Eucharistie, a quelque chose à l'intérieur de la confession, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Et on ne peut pas le savoir si ça ne nous est pas révélé. Et on ne peut pas rentrer dedans si ça ne nous est pas révélé. C'est impossible. Donc il faut recevoir cette doctrine pour pouvoir rentrer dedans. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Et donc j'espère que vous serez là demain, que vous ne serez pas trop découragé, parce que c'est fastidieux, ça a été très dur, cette montée, n'est-ce pas? Mais on va continuer comme ça. Nous continuons, du reste, à 5 heures, dans 3 quarts d'heure.